Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des CERT avec Sébastien Rumelard du CERT Airbus Group.
Bonjour.
Thomas Chopitea du CERT SG.
Bonjour.
Thomas Gaillet du CERT UBIC.
Bonjour.
Et pour discuter avec eux, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Chauveur.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Hulloa. Alors Hervé, quelle pourrait être la première question ?
c'est quoi un CERT ?
Alors un CERT, c'est une équipe qui va prendre en charge une réponse à incident, qui va aider, qui va assister à la réponse à incident. C'est le fondement un petit peu d'une équipe CERT. Alors après, on peut discuter un peu du terme parce que on l'évoquait précédemment. Un CERT, c'est une marque aujourd'hui qui est revendiquée par l'université Carnegie Mellon aux États-Unis. Donc on parle normalement plutôt d'un CERT pour Computer Security Incident Response Team.
C'est CIRT, tu veux dire en français?
Oui, c'est CIRT en français.
Et CERT, alors ça veut dire quoi, bien que ce soit une marque de l'université Carnegie Mellon?
Alors si tu as signé le document de l'université Carnegie Mellon, tu reconnaît que CERT ne signifie pas Computer Emergency Response Team. Donc, aujourd'hui, c'est une marque. En tout cas, pour...
Et ça ne veut rien dire.
Et ça ne peut rien vouloir dire à ce moment-là. Pourquoi?
Mais alors, dans cette émission ce soir, est-ce que on devrait pas parler de CERT plutôt que de parler de CERT?
Ouais, mais la réalité, c'est que le terme CERT, il est quand même beaucoup plus connu et popularisé.
Très bien. Alors, chacun d'entre vous, vos CERT, ils rendent tous le même service d'assistance à la réponse à incident?
On a des fonctions un peu différentes en fait. À la Société Générale, on est un CERT bancaire, donc on va avoir en plus des missions de réponse sur incident sur les trucs qui se passent en interne. On va aussi faire pas mal de veille et vérifier et regarder dès qu'il y a un incident externe, on va dire, donc qui atteint à la cybercriminalité. Donc par exemple tout ce qui est les attaques de phishing, les dénis de service, les arnaques sur internet, etc., qui peuvent impacter nos clients. Ça, c'est une des particularités des CERT bancaires.
Sébastien ?
Je pense qu'il y a autant de CERT et CERT qu'il y a d'entreprises, hein, puisqu'on vient s'adapter à une réalité technique spécifique à l'entreprise. Et pour rebondir sur ce que disait Thomas, il y a vraiment une grande différence entre la famille des CERT bancaires qui existe depuis plus d'une dizaine d'années et les CERT des groupes industriels comme le mien. On fait pas du tout on fait pas du tout face au même contexte et aux mêmes menaces.
C'est ce qui est défini dans la logique d'un CERT, c'est de rendre des services pour des parties prenantes. Et effectivement, en fonction de la typologie du CERT, on rend pas forcément les mêmes services. Tu évoques ici le cas d'un CERT industriel, on parle le cas d'un CERT bancaire. On peut avoir des CERT internes, c'est vos deux situations. Moi, je suis un CERT commercial, donc je propose des services à un ensemble de clients. On a aussi des CERT militaires, des CERT universitaires. Donc, une des définitions d'un CERT, finalement, ce qui le détermine, c'est également pour à qui il rend les services.
Absolument. Si je puis me permettre, il y a un terme dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui. Ce sont les constituants, ou en bon anglais, hein, la constituency, donc à qui on rend des services. C'est une des questions fondamentales auxquelles doit répondre un CERT.
Alors, en bon français, c'est ce que je traduis par partie prenante.
C'est ça. Par exemple, pour nous, ce sera toutes nos filiales, tous nos pôles, etc. Par contre, nous, on va pas s'occuper des problématiques d'autres entreprises ou d'autres banques. Alors certes, on est un CERT bancaire, mais que pour la Société Générale.
Oh, on parle souvent de clients, que ce soit les clients internes ou externes.
Tout à fait.
Ouais, tout à fait.
Alors, est-ce que on a vu que vous étiez des CERT différents? Est-ce que vous pensez avoir tous le même rôle, ou est-ce que vous avez des rôles un peu différents?
Moi, je dirais que les rôles d'un CERT, ils sont définis par les services qu'il rend. Donc, c'est effectivement fonction de chaque CERT qui choisit ou pas un ensemble de services qu'il va rendre à ses parties prenantes ou sa constituency.
Mais justement, c'est quoi ces services?
Bah, c'est très varié. J'évoquais moi la réponse à incident. Enfin, Thomas évoquait la réponse à incident. Pour faire une bonne réponse à incident, il faut forcément faire de la veille. Parce que si on n'est pas au courant des attaques en cours, des approches, des scénarios qu'on peut rencontrer, on est moins efficace dans une réponse à incident. Après, dans un CERT, on peut embarquer aujourd'hui des services proactifs, réactifs, très variés. Moi, au niveau du CERT public, aujourd'hui, je propose de la veille, je propose de l'évaluation de sécurité, je propose de la réponse à incident. Donc, c'est un panel qui peut être assez large.
Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas du tout la problématique, qu'est-ce que la réponse à incident ?
La réponse à incident, c'est quand un incident est déclaré au sein d'une entreprise ou d'une entité, il faut la résorber. Donc, il y a pas mal d'organismes qui essayent de définir justement un processus ou de standardiser un processus, même si c'est pas un standard en tant que tel. Mais il y a une méthodologie qu'on peut suivre, donc qui aide en fait le fil directeur de cette réponse qu'on va apporter au problème. Donc ça va typiquement commencer par l'identification du problème, ce qu'on appelle le containment, l'éradication du problème, etc., etc. Du coup, il y a plusieurs manières de le faire, hein, et il y a certains CERTs qui s'occupent peut-être, qui font pas tout toute la chaîne. Nous typiquement on a plus un rôle de conseil par rapport aux actions de rémédiation, mais c'est pas nous qui allons prendre les actions de rémédiation qui arriveront tout à la fin.
D'accord, et ça varie justement en fonction des certes. Il y a des certes qui prennent en charge les actions du début à la fin.
La rémédiation, bonne question. Moi dans mon cas c'est peu fréquent. Souvent effectivement on est plutôt en approche de donner des conseils pour permettre l'éradication par exemple de la menace, mais derrière ce sont les informaticiens habituels du réseau qui sont aptes à intervenir.
Il y a sûrement des certes commerciaux qui proposent, une fois qu'ils ont fait la réponse à incident, ils peuvent se proposer en tant que, mais là c'est plutôt la fonctionnalité conseil, on va dire, de cette entreprise là qui va reprendre la main sur la réinstallation
C'est pas ce que certains appellent les forces d'intervention rapide, je demande si ceux qui vont te corriger à ta place, parce que finalement, si t'as eu un incident de sécurité, c'est que tes informaticiens étaient pas suffisamment bons, donc on fait venir des super informaticiens pompiers experts pour aller corriger le réseau, le serveur, les applis, enfin tout ce qui va pas, non, c'est ça, non?
Bah, l'analogie avec la mission pompier, pourquoi pas, hein, c'est une analogie classique faite dans le monde des certes. Moi, le scénario classique qu'on rencontre, c'est quand même l'appel du vendredi soir. On est vendredi soir, il est 18h, et quand on décroche le téléphone, on comprend que c'est le moment de commander les pizzas et qu'on va passer le week-end à résoudre un incident dans une entreprise. Parce que souvent, ils ont attendu le dernier moment, dernière minute, et se sont laissés un petit peu dépasser, ce qui est normal aussi. Alors après, de là à dire que ce sont pas des bons informaticiens, j'irai pas dans ce sens-là.
Mais je crois que le problème au départ, c'est justement de qualifier ce que c'est qu'un incident. Parce qu'une fois qu'on a un incident, tout le monde sait ce qu'il faut faire, entre guillemets. Disons qu'il y a au moins des procédures qui tendent à être de plus en plus standardisées. Mais au départ, pourquoi est-ce qu'on attend vendredi soir ? C'est parce que tout le monde pense qu'au début, c'est un simple problème de disque dur ou une panne informatique, comme on dit. Et au bout d'un moment, il y a un moment où on bascule du simple événement dans un incident. Est-ce que c'est le rôle du CERT de faire cette qualification ?
Ah ben, la qualification, c'est pour moi la première réponse que le CERT apporte sur une réponse à incident. Parce que bien souvent, elle est soit erronée. Il y a une première qualification dans laquelle on projette ses fantasmes, entre guillemets, sur ce qui peut se passer, et on n'est pas dans le rationnel de quelqu'un qui est externe. C'est aussi l'intérêt parfois du regard externe. Soit la qualification est bien faite, mais l'éradication n'est pas si simple, ou la façon de résoudre n'est pas simple, et on vient conseiller sur cette partie-là.
Alors, éventuellement, je peux donner la façon dont on travaille chez nous. On part du principe que l'avantage d'avoir un CERT unique dans un groupe industriel, c'est que au moins on va avoir l'ensemble de l'information. Donc ce qu'une équipe de sécurité dans une division va voir comme quelque chose d'anodin, elle va quand même éventuellement nous le remonter parce que ça correspond à certains critères, et nous on va le mettre en lien avec d'autres éléments d'information, et ce qui nous permettra de faire ressortir que le truc qui apparaissait comme anodin était en fait le départ de quelque chose de critique. Mais on se repose énormément sur les équipes de sécurité locale qui, elles, vont quand même faire le gros du tri, et surtout, comme je le dis souvent, nous prévenir et nous expliquer pourquoi, à leur avis, ça n'est pas grave. Mais d'abord, nous prévenir.
Alors, quels sont les différents types d'actions prises par un CERT ?
Ça dépend du contexte. Disons que pour nous permettre d'être paresseux, on fait énormément de travail a priori, c'est-à-dire du travail de veille, du travail de qualification et du travail de collecte et diffusion d'informations. Et si au travers de cette collecte et de cette diffusion, on se rend compte qu'il y a un début de compromission, alors il faut rentrer dans une démarche d'investigation, de compréhension de l'attaque, et éventuellement se poser la question de savoir, les questions de base sont à quel moment on va conseiller à la personne qui se fait attaquer de couper ou de pas couper le chemin d'un attaquant, parce que dans notre contexte à nous, ce sera est-ce qu'il y a un risque d'exfiltration de données, est-ce qu'il y a un risque de compromission d'un système de production, et bien sûr la grande négociation dans laquelle on va rentrer avec le propriétaire de l'information, c'est vous nous dites que qu'il faut absolument couper parce que on a vu un chemin, mais si l'attaquant en a prévu 25 autres, le moment où vous coupez un chemin, votre information, elle va partir par les 24 autres que vous n'avez pas découverts. Et là, on est dans le... voilà.
Ouais, nous typiquement, ce genre de décision de est-ce qu'il faut couper ou pas couper, c'est nous, on est là pour apporter une recommandation et une évaluation de la menace. Donc on dit, les gens qui sont dans le réseau, ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça, ils font ça comme ça. Potentiellement, ils peuvent aussi, ils peuvent extraire de l'info, mais potentiellement, ils peuvent détruire tout le parc. Maintenant, nous, on n'est pas dans l'analyse de risque, hein, donc nous, on fait de l'analyse de la menace. Le risque, c'est côté métier que ça se passe.
Je suis absolument d'accord avec ça. C'est-à-dire que le CERT est un confessionnal et il ne peut jamais prendre de décision à la place de ceux qui sont les propriétaires de l'info. Ça, je suis absolument d'accord avec toi.
Et est-ce que le CERT ne sert pas aussi à tracer les choses, c'est-à-dire à journaliser tout ce qu'on a fait et comment l'événement est devenu un incident et qu'est-ce qu'on a fait pour réagir et qu'est-ce qu'on est allé voir? Et est-ce que vous journalisez comme ça toutes les actions que vous faites lors d'une réponse à un incident?
Ouais, alors ça c'est le côté coordination de l'incident. Donc, comme on disait tout à l'heure, des fois on a plusieurs petits, on pourrait appeler ça des signaux faibles, mais je pense que c'est un abus de langage. Mais on a plusieurs remontées un peu partout, et c'est à nous d'essayer de mettre ces pièces ensemble et de dire maintenant, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez nous trouver ça. Donc c'est vraiment à nous de dire, de journaliser effectivement, comme tu dis, comment se déroule l'incident quand c'est nous qui le prenons en charge. Si c'est par exemple juste une entité un peu loin qui va le prendre en charge de son côté, nous on est là pour donner un coup de main s'il faut. Mais dès lors que on est lead dans la gestion d'incidents, on va effectivement journaliser toutes les actions qui sont prises par tout le monde et voir comment ça se déroule. Ça nous permet aussi, on en parlera peut-être par la suite, mais ça nous permet à froid, quand l'incident est vraiment grave, de débriefer et de dire, de faire ce qu'on appelle donc les lessons learned et de dire tout ce qui s'est bien passé, voilà tout ce qui s'est mal passé. Donc ce qui s'est bien passé, c'est en général, on n'a pas coulé, donc c'est plutôt cool. Et tout ce qui s'est mal passé, ça pourrait être de dire, on a demandé des logs, les logs ils étaient pas complets, on a demandé ça c'était pas dispo, etc., etc.
Mais cette journalisation, elle sert aussi à mener un peu le travail d'enquête, parce que bien souvent, en tout cas moi dans une logique d'un CERT externe, on intervient, il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été réalisées dans l'entreprise, et on cherche à comprendre exactement quel est le point de départ de l'incident, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on a fait appel à nos services, qu'est-ce qui d'un seul coup fait qu'on déclare un incident, et on retrace un petit peu toute l'historique, et ça nous permet aussi de réaliser le travail d'enquête pour notamment la qualification de la menace.
Pour complémenter, il faut voir que concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un incident où on se dit on a besoin d'un CERT pour organiser la musique. C'est un moment où les gens qui sont vraiment sur le terrain et les deux mains dedans vont très probablement paniquer ou de toutes les manières être dans un état qui n'est pas leur état normal. Et donc, si vous avez un Gugus dans la pièce qui garde un peu de recul sur ce qui se passe, il va pouvoir garder une vision d'ensemble, tracer les éléments, savoir si à un moment il faut arrêter de creuser dans une direction pour parce qu'on est arrivé à un état satisfaisant de connaissances et aller plutôt utiliser les ressources pour aller voir dans une autre direction. Et puis, une fois que toutes les actions auront été menées, écrire le rapport qui permettra à ceux qui en ont la charge de prendre les décisions qui vont bien et après faire une analyse de risque qui dépasse l'incident lui-même, je dirais.
Et évidemment, en fonction des tailles d'entreprise, la maturité de ces processus est très très variable. Et donc, parce que là, on décrit un processus intéressant avec une vraie cellule de gestion de crise, par exemple, ou qui a été réfléchie préalablement. Évidemment, il y a beaucoup de sociétés où ça se passe pas tout à fait comme ça. Et donc, nous, on arrive aussi souvent sur des audioconférences où on se retrouve à 20 personnes en train de paniquer avec le PDG d'un côté, un technicien de l'autre, et on doit arriver et tenter de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc, c'est parfois un petit peu amusant, je dirais, mais on essaye en tout cas d'apporter de l'aide dans ces situations-là aussi.
Ouais, et j'irais aussi pour ajouter un dernier truc, on n'a pas un rôle métier, donc ça nous permet, encore une fois, on en parlera peut-être après, mais de faire beaucoup de recherche et de développement, et c'est un aspect essentiel aussi pour la bonne tenue d'un CERT. Mais ça nous donne aussi, comme side effect, un peu le rôle d'expert. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui va dire « Ah, regardez, là, je me suis pris un ransomware, j'ai entendu parler de ça, là, il va se propager dans tous les sens. » Nous, on va dire « Bah non, voilà comment marche la menace, voilà ce qu'ils font. On va pas partir sur des fausses pistes qui peuvent éventuellement avoir des effets dramatiques par la suite. On va se cantonner à ce qu'on sait et à ce dont on est sûr. »
Absolument.
Mais moi, j'ai quand même un peu du mal à voir la différence entre un CERT externe et un PRIS au sens de l'ANSI, c'est-à-dire un prestataire de réponse aux incidents. En fait, si je comprends bien, le rôle d'un CERT externe, c'est de fournir du personnel et des outils pour répondre à un incident de sécurité ponctuel chez un client final. Alors, c'est une sorte de cloud humain.
Il y a certainement une similitude dans le service qui est rendu, si on parle du service de réponse à incident. Après, la notion de CERT, il y a quand même une notion de communauté qui est assez importante. Un CERT, se définir en tant que CERT, c'est une chose. Après, on rejoint des réseaux d'équipes dans lesquels on va partager de l'information. Et sur la partie veille qui a été évoquée plusieurs fois et qui est fondamentale, ou la R&D qu'on doit investir dans un CERT pour se tenir informé, je dirais, et à la pointe de ce qui se passe, ça nécessite aussi de participer à un certain nombre de communautés, de partager de l'information.
Oui, c'est plus complexe que ça, parce que finalement, on peut être dans des communautés particulières sans utiliser la terminologie CERT ou avoir acheté la marque CERT.
Et puis alors, de l'autre côté, elle est gratuite. La marque CERT, il n'y a pas besoin de l'acheter.
pardon, avoir fait le dossier pour auprès de l'université de Carnegie Mellon pour pouvoir utiliser la marque CERT, c'est gratuit. Il faut juste passer le temps à faire le dossier. Et de l'autre côté, moi, je suis toujours assez dubitatif sur les réels échanges qui existe entre CERT. Dès l'instant que les CERT sont commerciaux, est-ce que vous allez vraiment échanger des signatures, des IOC, des choses comme ça entre vous, et dans quel cadre?
Du partage d'informations entre CERT, qu'ils soient internes, privés, commerciaux ou autres, c'est quelque chose qui existe. Alors après, on passe pas notre journée à échanger avec les autres CERT, si c'est la question. Mais évidemment, il y a des échanges, il y a des lieux de rencontre aussi. Des lieux de rencontre, on n'est pas toujours, c'est pas toujours partager une IOC, ça peut être aussi parler un petit peu de sa veille, de sa spécificité, parce que souvent les CERT intègrent des spécificités. Donc il y a pas mal de possibilités d'échange entre les CERT. Et puis un autre point quand même, c'est quand on se déclare en tant que CERT, je pense notamment aux certains termes, ça permet également d'obtenir une forme de visibilité dans une communauté sécurité. Moi, si aujourd'hui je veux remonter un problème de sécurité dans une entreprise, si la seule possibilité c'est d'écrire à webmaster@l'entreprise, je sais pertinemment qu'il ne va pas se passer grand-chose. Si je peux trouver un réseau formalisé, un contact CERT formalisé, ça va être beaucoup plus simple parce que j'ai un interlocuteur qui comprend de quoi je parle, qui ne va pas penser que c'est moi qui suis l'attaquant et qui va pouvoir agir sur un incident qui se déroule chez lui.
Je voudrais juste revenir à la marque CERT. Est-ce que son utilisation est soumise à une certification?
Techniquement parlant, il faut être prêt, je crois, à subir un audit et à tout moment s'en tenir à une charte, une certaine déontologie de CERT, c'est-à-dire respecter
les protocoles du genre TLP, ce qu'on entend énormément chez nous. En gros, être un gentleman avec l'information que tu reçois et que tu diffuses.
TLP, on l'a expliqué lors du compte-rendu de la BotConf ou je me souviens plus?
Exact. Tu on l'a parlé ça, dans l'épisode BotConf. Ouais.
Et donc, normalement, nos auditeurs fidèles devraient connaître.
Ou bien ceux qui souhaiteraient en savoir plus, eh bien, peuvent écouter l'épisode sur la BotConf. Alors, dans quel cadre il est indispensable d'avoir un CERT? Est-ce que toutes les entreprises devraient avoir un CERT?
Dans un monde idéal, ce serait quand même intéressant si dans la plupart des grandes entreprises à minima, on avait des contacts formalisés de sécurité. C'est-à-dire une personne qui peut avoir une vision d'ensemble ou qui va savoir rediffuser l'information au bon endroit dans l'entreprise, une oreille un peu comme ça sur Internet, sur la partie sécurité, ce serait assez agréable.
Ouais, ne serait-ce qu'en point d'entrée vers les entreprises, ça pourrait pas mal aider le flux justement d'informations du genre pour alerter les entreprises qu'elles se sont faites attaquer, etc., etc.
Ou pour le dire autrement, on a parfois des informations sur des entreprises, on n'a pas le temps ni les moyens parce qu'on n'a pas le bon interlocuteur pour leur remonter l'information.
Je peux poser la situation comme ça. Si aujourd'hui on admet que le monde est divisé en deux, les entreprises qui se sont fait compromettre et qui le savent, et les entreprises qui se sont fait compromettre et qui ne le savent pas, dans cette deuxième catégorie, qu'est-ce qu'elles font?
Rien, il y a eu un exemple d'entreprise qui a été compromise pendant 11 ans et tout le monde... Enfin, les gens en interne le savaient, ils ont décidé de ne rien faire parce que ça coûtait trop cher et l'entreprise a disparu. Alors, je sais pas si on peut citer de marque, mais... C'est un cas qu'on trouve facilement en cherchant sur un moteur de recherche.
Tout à fait.
Mais enfin, il ne faut pas se leurrer. La plupart des entreprises n'ont même pas de responsable sécurité ou alors des responsables sécurité à temps partagé. Donc de là, d'avoir une équipe dédiée pour gérer les incidents de sécurité, ça me semble un petit peu audacieux.
Alors est-ce qu'on
peut... Il faudra qu'on fasse une émission sur les entreprises qui n'ont pas de responsable sécurité. Alors, bon, là, on est quand même dans des entreprises qui ont des responsables sécurité, qui soit ont un CERT interne, soit font appel à un service externe. Alors, quel est le genre d'incident de sécurité que vous avez à traiter le plus souvent? Sans dévoiler de secret, bien sûr, mais quelle est la typologie de l'incident classique?
Mais on revient à la première question, hein. C'est aux spécificités des CERT et aux spécificités des contextes, hein, je dirais. Hein. Thomas, là, Thomas, peut-être que vous voulez parler de votre contexte à vous.
Bah, comme j'ai dit tout au début de l'enregistrement, nous on a cette partie qui consiste à regarder à l'intérieur ce qui se passe chez nous. Donc ça va être de problématiques du SI. À des indisponibilités, etc. Enfin, voilà, tout ce qui peut se passer dans un SI d'une certaine taille. Et étant un CERT bancaire, on va aussi se concentrer sur ce qui nous touche pas nous directement, mais ce qui va toucher les clients. Donc c'est une problématique qui est assez intéressante que d'autres entreprises comme les grands industriels rencontrent pas, parce que leurs clients c'est pas forcément des gens qui ont de l'argent chez eux. Donc quand je dis ça, je parle bien évidemment du phishing, hein, comme je dis tout à l'heure, de toutes les arnaques, les scams 419 que vous rencontrez sur Internet, des gens qui vous disent vous avez gagné la loterie Microsoft ou que sais-je, voilà, je vous ai fait un virement et qui vous montrent par exemple ce virement qu'ils vous ont fait, il y a un certificat de la Société Générale qui dit oui regardez on a payé 30 000 francs CFA, je sais pas quoi. Et du coup, ça aussi, c'est dans ce cas-là, c'est à nous d'intervenir et d'essayer d'enquêter pour voir qui sont ces gens, pour essayer de prendre des mesures contre ça. Et on a aussi toute la partie cybercriminalité plus orientée malware. Donc, il y a des groupes de développeurs qui développent des malwares et il y a des groupes de distributeurs qui les distribuent. Ça, du coup, c'est quelque chose dont vous avez probablement tous entendu parler, hein, concernant les grands spam runs de malware bancaire qu'il y a eu récemment avec les macros, les documents avec des macros.
Ouais, ça, merci typiquement... beaucoup.
Ouais. Ça, typiquement, nous, on va s'y intéresser parce que on veut comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et comment est-ce qu'ils font pour voler de l'argent à nos clients. Et comment est-ce qu'on peut faire, nous, pour, du coup, développer des contre-mesures. Donc, c'est pas un incident en tant que tel. Mais du coup, ce sera quand même une attaque à laquelle il faudra que nous, on réserve. Donc ça va pas se passer dans la semaine, hein, ça va se passer plus dans la durée. Mais c'est quand même des tâches qu'ont pas les autres CERT industriels ou peut-être même les CERT privés, je sais pas.
Et alors, les autres CERT, à quel genre d'incident vous êtes confrontés?
Les incidents, ils sont quand même très variés. On peut parler de compromission de ressources informatiques, type site web, etc. Ça, c'est des grands classiques. Évidemment, tout le monde pense aux attaques qu'on appelle ou pas APT. On va pas faire un débat sur le sujet, mais en tout cas, sur des attaques ciblées, ils sont quand même une réalité aujourd'hui complètement tangible. Mais il y a des incidents qui ont beaucoup moins d'envergure. C'est des faux courriels également. On a des scénarios de corbeaux électroniques, par exemple, dans pas mal d'entreprises. Ça peut être des situations de bombes logiques sur des systèmes d'information. Donc des gens pas contents qui laissent des petites surprises dans le réseau. Donc il y a beaucoup de choses, c'est assez varié en fait, c'est un des plaisirs de ce métier. Je vois avec mes collègues au niveau du CERTUBIC, c'est qu'on voilà, on varie un petit peu sur les interventions et c'est assez agréable.
Les corbeaux électroniques là, c'est une terminologie pudique pour parler des affaires de sexe en entreprise?
Non, même pas. Non, je pensais plutôt moi que ça peut être aussi ça. Hein. Ça peut être aussi ça. Mais oui, c'est souvent des histoires d'argent plutôt.
C'est d'accord. C'est pas des piratages de messagerie.
Non, non.
Est-ce que c'est vraiment le rôle du CERT de faire ça? Parce que moi, ça me semble plus un problème RH, légal, voire détective privé, investigation physique, quoi. Donc.
La partie CERT, on peut intervenir pour faire une investigation numérique, tout simplement. Les CERT font un petit peu d'investigation numérique parce que derrière une menace, il y a quand même un attaquant et parfois c'est intéressant de chercher à comprendre qui nous attaque.
Non, je pensais plutôt au cas de, on va dire, mail anonyme ou ce genre de choses qui techniquement sont vraiment pas compliquées. Aller dans un cybercafé et ouvrir une adresse chez un provider gratuit, c'est assez simple. Par contre, en général, une enquête de terrain, enfin de proximité, un ancien employé pas content, etc., donne beaucoup plus de résultats que des saisies de disques durs. Enfin, là, on est vraiment à la limite de ce qu'un computer emergency.
Ça, typiquement, ce sera de l'expertise technique, s'il la faut. Donc, par exemple, quelqu'un qui a, je sais pas, volé des documents et qui se les a envoyés par mail, ou quelqu'un qui a effacé des documents sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, c'est problématique RH, ou quelqu'un qui envoie des mails de menace, nous, ce sera peut-être le rôle d'un CERT d'investiguer et de retracer vraiment tout le cheminement du mail, etc. Enfin, là c'est vraiment la capacité d'expert technique à qui on pose une question et qui va dire oui ou non, ou etc.
Et Sébastien, dans le monde industriel, la typologie des attaques, c'est des logiciels malfaisants qui en veulent au savoir-faire et la technologie, ou non, c'est des choses classiques comme on a vu dans les banques ou dans les certes commerciaux?
Alors, je dirais, on travaille pas tout seul. Hein. Nous, on a des SOC, hein, des Security Operations Center, qui assurent la détection de la détection des événements sur les réseaux. Donc tu as ce qui est de l'ordre du bruit, hein, et quand on est victime des effets de bord d'attaques qui visent principalement le secteur bancaire, nous on s'en prend aussi. et puis oui, beaucoup, mais c'est pas grave pour nous, mais on s'en prend énormément.
On aime bien partager, hein.
Pas de souci. il y a après les attaquants, je dirais opportunistes, hein, qui disent ils font une attaque large avec du malware, et puis si ça prend, ça prend, et si ça prend pas, tant pis. Bon, là on a plein de boîtes pour nous protéger. Et puis après tu as ce qu'on redoute, hein, et bien sûr on ne commente pas sur les faits concrets, mais si vous regardez ce qui s'est passé chez vous pouvez vous imaginer que ce sont des situations qui nous intéressent. Et donc on disait qu'on n'allait pas troller sur ce que voulait dire le terme APT, Advanced Persistent Threat. En fait, ça n'a souvent pas grand chose d'advanced, c'est juste les attaques qui sont un peu ciblé et un tant soit peu plus difficile à contrer que ce que ne peut faire l'équipe de sécurité de l'entreprise visée. Voilà, il suffit de ça. Et cette dernière catégorie, c'est celle qui nous intéresse le plus, parce que c'est celle qui peut avoir les plus graves conséquences pour nos systèmes.
Mais ce que dit Sébastien est tout à fait juste, c'est souvent là où les équipes internes s'arrêtent que le CERT commence, pour de la qualification d'un certain nombre d'incidents.
Et est-ce que en tant que CERT, vous êtes audité ou contrôlé? sur vos activités, ce que vous faites et sur les rapports que vous produisez?
Et je me lance. Moi, je peux être parfaitement audité par par l'audit interne de mon entreprise, et qui ne se prive pas de le faire, et ça se passe tout à fait bien. Si tu veux rentrer dans des cercles de confiance, eh ben, il faut montrer que si on te donne de l'information, tu sauras en prendre soin et l'exploiter et la diffuser avec un peu de sérieux. Donc tu as des certes pairs qui viennent te voir et qui peuvent attester de ton sérieux.
Enfin, justement, ne pas la diffuser.
Si, parce que, alors, on va reprendre l'histoire de TLP, hein. Si on te diffuse de l'information en TLP Amber, tu as le droit, et même assez recommandé, de diffuser cette information à tes constituants, dans la limite de la capacité de ces derniers à exploiter cette information.
Partage l'information en bonne intelligence.
Exactement. Dans tous les sens du terme.
Ouais.
Par exemple, je pense aux certes bancaires. Est-ce que c'est vous qui gérez les fraudes au président, par exemple, les tentatives de virement, de tous ces machins-là?
Ça dépend ce que tu entends par gérer. Encore une fois,
investiguer.
Alors voilà, nous on est un peu les référents techniques, on va dire. Donc si on nous signale une tentative comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement, comme tu dis, investiguer. Essayer de voir qui a envoyé le mail, est-ce qu'il y a d'autres gens qui l'ont reçu. Justement, ça fait partie aussi de la centralisation de l'information. Et on va se limiter à cette enquête technique. Après, tout le volet juridique, porter plainte, pas porter plainte, ça, c'est pas du tout nous qui avons. Nous, on est là juste pour apporter des preuves numériques. Et après, c'est le métier ou le pôle qui va gérer ça comme bon lui semble.
Et alors, selon vous, comment les certes vont évoluer?
Ils vont tous se certifier 27 000.
Est-ce qu'il va y avoir un changement dans les rôles, dans les actions?
Je pense qu'il faut les faire labelliser par l'ANSSI.
Ils vont tous obtenir la qualification prestataire de réponse aux incidents de sécurité, non?
Il y a pas mal de certes qui y sont intéressés, évidemment.
Si ma constituency décide qu'il est nécessaire pour que je rende mes services, que je sois pris, je serai pris. Et s'ils décident que c'est pas nécessaire, je ne serai pas prise. Je ne chercherai pas à l'être.
Et donc, si on reparle d'évolution, selon vous, est-ce qu'il va y avoir quand même des évolutions dans les rôles ou dans les actions, ou bien
Alors la menace qu'on a en face de nous, elle évolue tout le temps, donc et très très vite. Hein, donc ce que je fais aujourd'hui au CERT, ça a beaucoup changé de ce que je faisais il y a 3 ans. Et j'en suis très content d'ailleurs, parce que du coup ça rapporte cette aire de fraîcheur à chaque fois qui me fait que je m'ennuie jamais. Et du coup c'est je pense que oui, effectivement ça sera mené évoluer par la suite, hein. Il y a 3 ans on s'est intéressé un peu, on disait qu'on faisait de la veille, aujourd'hui on essaie d'industrialiser un peu tout ça et de mûrir dans ce sens, donc on va dire qu'on fait de la threat intelligence. Il y a aussi d'autres choses. Nous, on a une optique où on se dit qu'on essaye d'industrialiser tout ce qu'on peut industrialiser. Essayer de gagner le plus de temps sur des tâches qui sont pas forcément intéressantes. Et du coup, les automatiser, laisser faire les ordinateurs leur boulot, et nous, on fait ce qui demande vraiment du jus de cerveau, quoi.
Alors justement, ouais, c'est une bonne question, ça. Est-ce que les certes sont mûrs en termes d'outillage? Parce que bon, moi, il y a quelques temps, je voyais quand même les gens travailler avec Excel et des macros VBA, des GREP. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que les certes ont atteint un certain niveau de maturité, ou est-ce qu'on a encore...
Pour quoi faire? Ça dépend de quel service on parle. Pour rendre un service de réponse à un incident, c'est certain que ça nécessite un peu plus d'outillage qu'à 10 ou 15 ans. Ceci étant dit, l'approche « je développe mon script », elle reste très réaliste dans pas mal de situations.
Donc, GREP est un outil formidable. Hein.
Exactement.
SIFT est bien meilleur en termes de performance.
Mais certes. Certes, c'est le cas de le dire. Mais sur l'évolution des certes, il y a un paramètre à prendre en compte aussi, c'est qu'il y a une augmentation assez importante du nombre d'équipes, et ça vaut à échelle mondiale. Ça veut dire aussi que la façon dont la confiance pouvait exister entre les certes, elle est en train de se redéfinir. Il faut trouver d'autres moyens d'apporter la confiance, de maintenir des liens de confiance, parce que on évoquait ces liens de confiance sur le partage d'informations. Moi, demain, un de mes clients au Certubic subit une attaque depuis, je sais pas moi, une adresse IP d'une faculté italienne. Je sais qu'en prenant contact avec le CERT qui a autorité pour cette faculté italienne, on appartient à au même réseau et on va donc échanger très facilement de l'information. Je vais pas perdre 2, 3 ou 4 jours à convaincre de qui je suis et pourquoi j'ai ma démarche. Donc c'est aussi ça la collaboration entre les CERT.
J'ai vu que le CERTG publiait pas mal. Le fait de publier en libre, ça fait partie de vos rôles. Enfin, en tout cas, vu de l'extérieur, ça peut paraître pour certains auditeurs un peu étonnant de voir une banque faire autant d'efforts pour contribuer à la communauté. Est-ce que c'est une volonté officielle ou c'est juste vous au sein du service qui mettez par vous-même à disposition?
Pour répondre à ta question, Hervé, sur le fait qu'on aime bien publier des trucs en open source, effectivement, c'est une volonté qu'on a nous au sein du CERT. J'avoue ne pas être au courant des efforts qui sont menés ailleurs dans le groupe concernant la publication d'outils. Ça me paraîtrait pas bizarre hein, qu'il y ait déjà des gens qui aient publié des choses. Je pense notamment à Airwell, si je me trompe pas, ça a été créé à l'ASG. Du coup, c'est bon. Je pense que c'est en tout cas notre mission au sein du CERT, c'est aussi de se dire pourquoi pas essayer de propager cette volonté de partage à tout le groupe. Et du coup, nous, on a tellement aussi pris des choses et appris des choses de la communauté sous forme d'outils, sous forme de partage d'informations, sous forme de d'apprentissage hein, pur et simple technique.
Moi, j'ai plus le son de ta voix. Vous l'avez
Moi, c'était bon.
Ok. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Oui, je disais que la communauté nous a tellement apporté de choses que du coup, on aime bien aussi pouvoir rendre quand on peut rendre. Donc, par exemple, il y a 2 ans et demi, quand on a commencé à créer notre plateforme de gestion d'incidents, parce qu'il y avait aucune solution open source qui nous allait et les solutions commerciales, elles nous allaient pas non plus. On s'est dit, au bout de 2 ans, bah bon, le truc est suffisamment rodé pour qu'on puisse le publier. Donc, pourquoi pas le faire? Et on l'a fait, donc en se disant, ben, au pire, ça servira à personne, et au mieux, ça servira à des gens. Et du coup, on a eu quand même pas mal de contributions. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça nous a surpris. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'était la première fois que je publiais un tool open source aussi grand. Et du coup, c'est vraiment sympa de voir que l'effort est apprécié, et ça nous fait vraiment plaisir.
Et on peut se dire qu'on peut être un peu cynique et se dire qu'on travaille dans un écosystème et que on profite du fait que le niveau de sécurité globalement aille crescendo de par nos contributions. On profite du fait que les autres deviennent meilleurs.
Enfin, le niveau de sécurité, il se maintient parce que de toute façon, les attaquants, ils progressent peut-être plus vite que les défenseurs. Hein.
Bah, c'est ça, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure aussi. Si on reste tout seul dans notre îlot à essayer d'éteindre le feu chez nous, on s'en sortira jamais, quoi. Et c'est pour ça que le partage d'outillage, de rétex, d'informations, etc., c'est capital pour qu'on puisse faire le boulot qu'on fait. Sinon, on s'en sortirait jamais à essayer de tout garder pour nous et de pas s'ouvrir aux autres.
Les gens qui travaillent dans vos CERT, ils ont fait quel genre d'études et ils suivent quel genre de formation pour travailler dans un CERT?
Ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est l'humilité. C'est avoir un ego qui est parfaitement contrôlé. C'est ça le maître mot. Ad Augusta per Angusta.
Alors, est-ce que vous auriez une anecdote sympathique, surprenante, à partager avec nos auditeurs? Ouais, Thomas Gaillet.
Ah, je ne sais pas laquelle je pourrais choisir et anonymiser. Bonne question. Non, il y a tellement de choses, je ne serais pas très bien... Moi, ça fait une dizaine d'années maintenant que je pratique de la réponse incident dans le contexte d'un CERT et on voit évidemment des situations très variables. Il y a des choses peut-être qui m'ennuient, et notamment, c'est encore un autre point qu'on n'a pas évoqué dans les services d'un CERT, mais on fait de l'évaluation de sécurité. Alors nous, au CertUbiQ, en plus, on fait cette évaluation aussi sur la partie objets connectés, Internet des objets demain. Et ce qui est un peu embêtant, c'est on a toujours des difficultés à remonter les vulnérabilités. Ça n'a pas beaucoup changé, ça. Sur des éditeurs aujourd'hui qui sont pas matures, on trouve parfois des failles qui impactent des centaines de milliers d'objets ou des centaines de milliers de machines connectées dans le monde, et on n'arrive pas à faire en sorte que ces failles-là soient corrigées. Voilà. Peut-être cet exemple-là.
En ce qui Thomas. Concerne, étant donné que j'ai parlé de mon employeur ce soir, évidemment, si je raconte une anecdote, elle ne sera pas anonyme. Donc, la seule chose que je vais dire, c'est que on a plein d'anecdotes ultra marrantes toute la journée. et je voudrais ajouter aussi quelque chose à qu'est-ce qui fait le propre d'un bon membre d'un CERT, c'est aussi le sens de l'humour, parce que sinon on s'en sortirait pas. Et aussi, bon, c'est les petits 5 secondes pub. Si vous voulez connaître toutes ces anecdotes, nous, on recrute, on cherche quelqu'un, une sixième personne pour venir nous donner un coup de main et se marier avec nous. Voilà.
Bon, alors justement, si quelqu'un veut recruter, il peut te contacter sur Twitter, c'est ça? Comment est-ce qu'il fait?
Oui, sur Twitter, comme il veut. S'il est bon, il trouvera mon adresse mail. Elle est publique, hein, donc. Oui.
Sébastien?
Un peu le même problème. Hein.
Et est-ce que vous recrutez alors?
Ouais, alors on recrute dans un contexte, je dirais, international. Donc on recrute un peu, mais on met à peu près 2 ans à trouver la bonne personne à chaque fois qu'on ouvre un poste. Ce que je voudrais que les gens intègrent quand ils auront fini ce podcast, c'est-à-dire que travailler sur la réponse à un incident, c'est probablement le boulot le plus intéressant. Quand on fait de la sécu informatique aujourd'hui, à un moment où les jeunes se demandent à quoi ça peut bien servir d'aller bosser pour une petite boîte, une grosse boîte, etc., on peut se dire que ça fait du sens de bosser là où on bosse. On sent un petit peu notre utilité, peut-être pas à chaque seconde, mais on a un niveau de satisfaction assez important.
Et ça, effectivement, c'est un côté extrêmement agréable, c'est que quand on intervient dans des situations où les gens étaient un peu paniqués et qu'on arrive à résoudre véritablement le problème, il y a une satisfaction qui est énorme, et ça, c'est un plaisir qui est vraiment propre, je pense, au métier de la réponse à incident.
Ouais, je suis d'accord.
Bah alors justement, est-ce que vous avez pas quand même remarqué que beaucoup d'écoles font plus la promotion de l'attaque que de la défense, et qu'il y a beaucoup de candidats pour devenir pentester et à mon avis moins de candidats pour devenir défenseur?
Ouais, alors ça je pense que c'est relativement historique, hein. On a tous cette image très romancée de on s'intéresse à l'informatique depuis qu'on est jeune. Enfin, je dis très romancé, mais c'est pas forcément vrai, hein. Moi, je m'y intéresse depuis que je suis jeune. Mais en général, quand les gens, ils ont un petit côté, un petit penchant pour la sécurité, où ils aiment bien essayer de détourner des trucs de leur fonctionnement normal, ils vont plutôt s'intéresser à l'offensif que au défensif. Donc, typiquement, ça, on le voit, hein. Tu t'y connais en ordinateur, est-ce que tu peux pirater la boîte mail de ma copine parce que je pense qu'elle me trompe? Enfin voilà, tout ce genre de truc, c'est là où, en étant gamin, et c'est à ce moment-là où t'es le plus curieux, c'est là où tu vois qu'il y a le plus d'attrait, en fait. Personne va dire « Oulala, j'ai passé mon week-end à creuser la MFT de mon disque dur, c'était génial, quoi. » Ça n'existe pas, quoi.
Après, il y a une particularité peut-être sur les certes, c'est qu'on est consommateur de profils qui vont être capables de faire de l'ingénierie inverse, par exemple. Et mine de rien, quand on aime bien ça, il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut pratiquer du reverse engineering, et dans les certes, on a l'exemple, parce que les malwares...
De la rétro-ingénierie.
Ah, pardon, c'est vrai, le terme normalisé. Alors, de la
rétro-ingénierie... Non, c'est le terme en bon français. Tu sais, la NSSI a invité l'ingénierie à reculons.
L'ingénierie à rebours, plus précisément.
À reculons.
Comment veux-tu?
Enfin bon, la rétro-ingénierie, c'est vraiment effectivement très intéressant, et sur ce sujet-là, il y a même des formations en français.
Rétro-conception,
mais elles viennent de se passer. Je dirais, pour reprendre l'analogie qu'on se donnait sur les pompiers, hein, tu peux te dire, ouais, les attaquants, c'est vachement plus fun que les défenseurs. Mais si tu regardes exactement ce que fait un CERT, on défend pas une entreprise, hein. Moi, je suis un connard, moi je Moi, je suis plutôt, dans l'absolu, je suis plutôt content que mon entreprise se fasse, se fasse percuter parce que ça me donne un truc à investiguer. Donc, en fait, je suis pas si sympa que ça.
T'es un pompier pyromane, en fait.
Ah, comme le disait un collègue qui faisait une présentation, on aime le feu. On aime le feu.
Exactement. Mais c'est vrai que quand on explique au client qu'on est drôlement content d'avoir trouvé un super malware qui va faire beaucoup de mal chez lui, c'est toujours un peu particulier. L'opposition entre le plaisir technique de la qualification, de la rareté du malware ou autre et la réalité chez le client.
Bah, c'est sûr, tu trouves un logiciel malfaisant totalement ciblé exclusivement pour ton client, c'est le jackpot. Bon, c'est un peu difficile à comprendre pour le client.
Mais c'est la même logique pour le pentester qui a trouvé sa super faille. Hein.
Il veut faire un super white paper après, voire tourner dans plusieurs conférences. Donc...
ouais, il y a cette dimension, c'est vrai, que de savoir qu'en face de toi, tu as un adversaire qui est vraiment humain. Et du coup, le jeu du chat et de la souris, il est vraiment intéressant. Quoi, parce que ça veut dire qu'il faut que tu essayes de penser mieux que lui. Et tu sais que derrière lui, il va essayer de penser mieux que toi. Et savoir que tu as vraiment quelqu'un en face de toi qui s'adapte, etc., et qui essaie de tenir. C'est très intéressant, hein. Comme disait Sébastien, voilà, nous quand on se fait attaquer et que les attaques sont intéressantes, on aime bien, quoi. C'est ça qui est sympa du métier.
Et vous avez souvent réussi à prendre des attaquants sur le fait, c'est-à-dire que pendant qu'ils étaient toujours en train d'agir, connectés.
Ben, ça dépend de quoi on parle. Si on parle des attaques qui visent par exemple les clients dans le secteur bancaire, malheureusement les attaquants ils se cachent même pas, hein. Ils sont en photo sur Facebook avec des liasses de dollars dans les mains, enfin dollars ou autre monnaie d'ailleurs, là n'est pas la question, mais et malheureusement on peut pas faire grand chose. Donc ça c'est vrai que c'est assez frustrant parce qu'on peut identifier l'attaquant, mais on sait que derrière la réponse juridique ou pénale sera complexe. Après effectivement on a des situations quand même sur des attaques ciblées où on est au même moment sur la machine avec un attaquant. C'est quand même une situation qui est assez qui est assez particulière.
L'adrénaline monte.
On a déjà eu des cas où en analysant des malwares bancaires sur nos VM, on se retrouvait à que le type nous envoie des messages en disant qu'est-ce que tu fais, sors de là, laisse-moi tranquille, quoi.
Ah, excellent.
Bon, Thomas et Sébastien, un grand merci d'avoir participé à cet épisode.
Merci à vous.
Et merci à vous.
Merci beaucoup.
On espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.